on pense bien à vous. Et on
Merci.
pense à toutes les églises de notre famille d'églises. Voilà. Alors, ça me fait plaisir de voir vos visages. On aurait aimé vous accueillir à Bondues autrement, avec préparer une petite fête. C'est comme ça. Et les choses en sont ainsi. Je voudrais aborder ce sujet avec un thème qui est le thème qui est le titre d'une chanson que vous avez, pour les plus anciens, sans doute connue. C'était une chanson de Gilbert Bécaud qui disait « Et maintenant ». Vous vous souvenez de la chanson « Et maintenant, que vais-je faire ?»
Oui,
Et ben voilà, c'est un peu le thème que je voudrais aborder ce matin, parce que je pense que pour beaucoup de personnes de notre génération qui sont en train de vivre quelque chose d'assez nouveau, en tout cas à l'échelle mondiale. Nous attendons avec impatience la fin du confinement et nous pensons qu'après cette crise, le cours de nos vies reprendra normalement. Et nous pensons déjà à l'après, enfin je ne sais pas vous, mais moi je pense déjà à l'après. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Comment allons-nous organiser les choses au niveau de l'Église? Comment allons-nous organiser nos réunions? Avec sans doute ce qui sera un confinement partiel, un déconfinement partiel. Et même si on pense à l'après, je pense qu'on doit avoir à l'idée que dans les évangiles et dans plusieurs textes prophétiques de l'Ancien et du Nouveau Testament, le Seigneur nous a prévenu que les épreuves se succéderont à la fin, avant que la fin n'arrive. Et ça, on doit avoir ça à cœur et à l'idée, en tout cas dans notre esprit, que les choses ne font que commencer. En tout cas, je le crois. Et nous savons ce qui nous attend, nous connaissons ce que Dieu attendra de ce peuple dans les temps de la fin. Être de plus en plus consacrés, être de plus en plus des hommes et des femmes qui chercheront, qui se mettront à son écoute. Vous savez, en ce moment, il y a un son qui vient de la terre, qui est un son de souffrance, un son de panique, un son d'incertitude. Et je pense que l'Église doit entendre ce son-là, oui, mais tout en écoutant la souffrance, en ayant compassion des âmes, en ayant compassion de ceux qui partent sans avoir dit au revoir à leur famille. Je pense que l'Église a besoin d'entendre le son du ciel. Et ce qui nous importe, je pense, c'est d'entendre le son du ciel. Alors, pour répondre à la question et maintenant, avec mon petit point d'interrogation, je pense qu'il faudrait d'abord connaître de qui vient cette crise. Et avant de commencer à répondre à cette question, je voudrais simplement peut-être vous interpeller, parce que je pense que quand on sait d'où viennent les choses et sous le contrôle de qui elles sont, ça va automatiquement enclencher des prières qui seront différentes, une attitude de foi par rapport à l'épreuve qui sera entièrement différente. Vous voyez, dans les réseaux sociaux actuellement, on entend toutes sortes d'origines de cette crise mondiale. En France, on met le dos malheureusement sur nos amis de la porte ouverte à Mulhouse. Comme si la crise en France venait uniquement de ce rassemblement qui a eu lieu. D'autres disent que ce sont les Chinois. Il y a déjà des guerres sur les masques, sur la fourniture de masques entre les États-Unis, l'Allemagne, la France, etc. Et je pense que les chrétiens aujourd'hui, ça c'est un peu le bilan que je fais hein, de cette crise, c'est que nous sommes de plus en plus envahis de pensées différentes, d'origines différentes de cette crise à travers les réseaux sociaux. Certains vont dire que cette crise vient du diable, ils en appellent à une mobilisation dans le combat spirituel, ce que je respecte. D'autres expliquent que cette épreuve ne vient pas de Dieu parce que Dieu nous aime et qu'il est amour et qu'il ne permettra pas que cela vienne. Et moi, je me suis posé la question, en tout cas depuis 3 semaines maintenant, parce que nous nous sommes mis en confinement un peu plus rapidement que ce qui nous était demandé. Et je me suis posé la question, Seigneur, si cette épreuve venait de toi. Et je dis cela parce que peut-être que ça perturbe peut-être certains d'entre vous. Je l'entends. Mais la Bible montre aussi des croyants qui passent par l'épreuve et qui sortent brisés de cette épreuve. Et j'ai entendu le pasteur Samuel Peter Schmitt. Brisé physiquement, mais brisé aussi dans son cœur par rapport à tout ce qu'il avait vécu.
C'est vrai.
Oui, il y a des crises, il y a des épreuves qu'on ne pourra pas éviter, ni dévier, ni esquiver, parce que Dieu veut tout simplement qu'on passe à travers elles. Et vous voyez, il y a un exemple qu'on voit, parce qu'on va bientôt arriver au temps de la Pâque. Et il y a un exemple, c'est que lorsque Dieu fait sortir son peuple d'Égypte, il dira qu'il va les emmener par un chemin qui ne sera pas forcément plus court. Et il dit ceci afin que son peuple ne regrette pas l'Égypte et n'y retourne. Et je pense que parfois Dieu nous fait passer par des détours, que j'appellerais des détours divins, qu'il faut accepter lorsqu'on veut que le Seigneur dirige nos vies. Je voudrais vous lire un passage, je vais vous laisser le temps d'ouvrir, je vais lire ce passage dans la version seconde 21. C'est Ésaïe chapitre 24 et on va lire les 13 premiers versets. Ésaïe 24, les 13 premiers versets. On va le lire ensemble et je vais vous lire dans la version seconde 21 qui est très explicite, je trouve. Vous êtes prêts?
Oui.
Voici que l'Éternel saccage la terre, il sème la dévastation. Il bouleverse sa surface et disperse ses habitants. Un même sort frappe le prêtre et le membre du peuple, le maître et l'esclave, la maîtresse et la servante, le vendeur et l'acheteur, le prêteur et l'emprunteur, le créancier et le débiteur. La terre est entièrement saccagée, livrée au pillage. Oui, l'Éternel l'a décrété. La terre est en deuil, elle est épuisée. Le monde épuisé dépérit. Les grands des peuples de la terre dépérissent. La terre avait été souillée par ses habitants parce qu'ils enfreignaient les lois, modifiaient les prescriptions, violaient l'alliance éternelle. Voilà pourquoi la malédiction dévaste la terre et ses habitants doivent supporter les conséquences de leurs crimes. Voilà pourquoi les habitants de la terre sont punis. Il ne reste qu'un petit nombre d'hommes. Le vin nouveau est en deuil. La vigne dépérit. Tous ceux qui avaient le cœur joyeux gémissent. La joie des tambourins a cessé. Le tapage des amusements a pris fin. La musique jubilatoire de la harpe a cessé. On ne boit plus de vin en chantant. Les liqueurs fortes paraissent amères aux buveurs. La ville du chaos n'est que décombre. Toutes les maisons sont fermées, on n'y entre plus. On crie dans les rues parce que le vin manque. Toute réjouissance a disparu, l'allégresse est bannie du pays. Il ne reste dans la ville que ruine, que les portes sont abattues, démolies. Sur la terre, au milieu des peuples, c'est comme lorsqu'on secoue l'olivier, comme lorsqu'on grappille des raisins après la vendange. Ce texte m'a beaucoup interpellé parce que je trouve que sur certains points, il est ressemblant à ce que nous sommes en train de vivre. Et d'abord, je voudrais vous dire que par rapport à ce texte, ce texte nous montre que Dieu est souverain. Il est écrit au verset 3 que c'est l'Éternel qui a décrété les événements. Il est en train de bouleverser la surface de la terre. Et je vois à travers cette crise une volonté de Dieu de bouleverser les choses. Il a décrété et il est en train de bouleverser la surface de la terre au point qu'il est en train même d'ébranler les plus puissants de ce monde. Mm-hmm. Est-ce que Dieu fait ici impacte tout le monde sans exception? On voit par exemple le puissant et le faible être touchés. Il y a les grands et les petits qui sont touchés. Il y a les riches et les pauvres. Il y a les prêtres, les sacrificateurs et les membres du peuple. Il y a les autorités qui sont touchées et personne soumise à ces autorités. En réalité, on s'aperçoit que cette crise nous touche tous. Et je pense qu'on a tous, en tout cas, pour notre part, dans notre communauté, des gens qui ont été touchés et des gens que nous connaissons qui sont touchés. Oui. Et je me suis posé la question et je me suis dit, Seigneur, mais pourquoi, Seigneur, permets-tu cela? Et regardez ce qu'il est écrit ici au verset 5. Il est écrit que la terre a été souillée par ses habitants parce qu'ils enfreignaient les lois et parce qu'ils modifiaient les prescriptions, parce qu'ils violaient l'alliance éternelle. Voilà pourquoi la malédiction dévaste la terre et ses habitants doivent supporter les conséquences de leur crime. Voilà ce qui est écrit à ce verset 5. On a une réponse peut-être à ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que nous sommes responsables de ce que nous sommes en train de vivre. Et je vais vous épargner la liste exhaustive des crimes de ce monde, vous la connaissez, comme vous et moi. Mais on a permis dans ce monde quand même des choses qui sont quand même assez extraordinaires. On est en train de faire aujourd'hui de la sélection en Chine quant aux naissances. On avorte dans le monde entier. On est en train de... Le riche est de plus en plus riche et il exploite le pauvre de plus en plus. Je veux juste vous citer quelque chose qui me paraît incroyable parce que je travaille dans l'environnement. Mais vous savez qu'aujourd'hui, tous nos téléphones portables sont envoyés dans les pays où les métaux précieux qui sont récupérés sur nos cartes mères de nos téléphones sont récupérés et on continue de s'acheter des téléphones. En réalité, même nous, peuple de Dieu qui avons des appareils électroniques, nous sommes en réalité, nous participons au crime de ces enfants. Et ce qui est plus grave encore, c'est que nous sommes imprégnés par l'esprit de ce monde. Et je pense que cette crise doit nous amener à comprendre que le monde a imprégné nos comportements, que le monde a imprégné nos pensées, notre manière de penser, notre manière de vivre. Et nous nous conformons au monde. Et malheureusement, peut-être pas vous, mais moi j'ai la conviction que l'Église s'est laissée imprégner de ce monde.
Oui, c'est vrai.
Et l'Église ne ressemble pas encore à ce que Jésus veut qu'elle soit. Aussi, le Seigneur a décidé d'éveiller notre conscience, de nous transformer par cette épreuve. C'est pourquoi il est écrit que la malédiction dévaste la terre, que les nations sont fermées, que les maisons pardon, sont fermées et qu'on n'y entre plus. Et pour moi, que la joie des tambourins a cessé. Vous imaginez, ça ressemble étrangement à ce que nous sommes en train de vivre. Nos maisons sont fermées, plus personne n'entre dans nos maisons. Ou plus loin, il est écrit que la joie des tambourins a cessé. Moi, j'ai un couple qui devait se marier bientôt, là, au mois d'avril. Ils ont reporté leur mariage. La place à l'amusement est terminée. Et qu'on ne me dise pas que ce sont les applaudissements des gens à 20h le soir qui ont remplacé tout cela. Vraiment, je vois, moi, des gens tristes, des gens qui ne se parlent plus. Je vais de temps en temps prendre l'air et je promène mon chien. Enfin, c'est plutôt mon chien qui me promène. Et je rencontre des personnes et des personnes ne me disent même plus bonjour. Et dès que je rencontre quelqu'un qui s'éloigne de moi comme si j'étais pestiféré, vous voyez, on est tous dans une situation où on se méfie les uns des autres. Tout ça, c'est parce que Dieu a placé la terre dans un grand silence. Et le silence de la Bible, écoutez bien ceci, fait toujours en référence à un temps déterminé qui précède l'action puissante d'un jugement divin sur la terre. Toujours. Lorsque Dieu a décrété un silence, c'est qu'il va faire quelque chose. Et lorsqu'un silence d'une demi-heure est décrété dans l'Apocalypse, chapitre 8, ceci précède le jugement qui va commencer.
Ouais, ouais.
Alors, que faire alors que ce silence est envahi la terre? Alors moi, je ne dirais qu'une chose. Faisons silence. C'est quoi faire silence? J'ai essayé de réfléchir sur ce sujet. D'abord, je crois que le silence, c'est faire taire nos inquiétudes. Et nous sommes envahis aujourd'hui de messages négatifs, de messages de division, de savoir quel est le bon traitement à prendre. On passe du temps à écouter la voix des médias. Je ne sais pas vous, mais moi, j'allume au moins une fois le matin, une fois le soir pour prendre des nouvelles un peu de mon pays, de ce monde. Mais on ne parle que de choses négatives. Et Jésus est notre maître. Et qu'a-t-il dit, Jésus? Il a parlé de ces temps de crise pour son peuple. Il a dit que votre cœur ne se trouble pas, croyez en moi. En Jean chapitre 14, verset 1. Jésus est notre maître et il nous conseille comment faire en ces temps cruciaux. Vous savez, là encore, on va rentrer à la Pâque, dans les temps de Pâque. Alors que le peuple va sortir d'Égypte, alors que l'exterminateur passe dans les maisons de ceux qui n'avaient pas mis le sang autour de leurs portes, Dieu invite son peuple à un repas. Vous savez, j'ai entendu, on ne va pas faire un débat théologique sur le sang de Jésus, mais j'entends des gens de ma communauté dire « j'invoque le sang de Jésus sur ma porte ». Et je sens bien à travers leurs prières et leurs déclarations une grande crainte et une grande peur. Alors que Dieu invite son peuple à un repas, celui de l'agneau, Dieu est en train de dire, pendant que l'exterminateur va passer, moi je vous demande de préparer une fête en famille, je vous demande de préparer un repas et je vous demande d'appeler d'autres personnes, vos voisins, en tout cas de donner à manger à vos voisins, etc. En ces temps de crise, je crois, moi personnellement, que je dois devenir psychologiquement et spirituellement imperméable en ce temps de confusion. Je voudrais que vous remettiez un instant dans le temps de l'époque où ça s'est passé, là, cette sortie d'Égypte. Vous imaginez, le peuple était en train de manger l'agneau sacrifié. Ils avaient le sang autour de leur porte et ils entendaient le cri du voisin, un cri de douleur, un cri de mort, un cri de deuil. Et ce peuple-là s'était mis dans le silence, écoutait le Seigneur et était en train de prendre un repas dans la communion avec le Père. Je pense que nous ne pouvons pas éteindre nos inquiétudes si nous continuons à nous conformer au monde. Le temps est venu de prendre le repas avec le Seigneur, de fermer peut-être nos portes, de prier et de dire « Seigneur, merci parce que par le sacrifice de Jésus, je ne passe pas en jugement, mais je passe de la mort à la vie en toi. » La deuxième chose, je pense, pour faire taire aussi, pour faire silence, c'est de se purifier. Vous savez, dans certains cas, on passe par des épreuves. Pourquoi ? Parce que Dieu veut nous purifier à travers elles. Tous autant que nous sommes, je pense qu'on commence à avoir un peu de bouteille, hein, pour ne pas dire autre chose. On commence à prendre de l'âge. Et tous autant que nous sommes, on peut dire que toutes les épreuves par lesquelles nous sommes passés nous ont fait grandir.
Amen.
Ouais. Et dernièrement, je prêchais à l'église. C'était mon dernier dimanche. Et je ne savais pas qu'on allait vivre tout ça. J'ai prêché sur que Dieu voulait purifier nos vies comme il purifie l'or et l'argent. C'était dans le livre de Malachie. Oui. Et je pense que dans ces temps, on doit discerner la voix de Dieu pour ne pas finir.
On n'entend plus Jean-Bernard.
Non, je sais, mais attends. On t'entend plus, Bruno, on ne t'entend plus. Bruno, je crois qu'on ne t'entend plus.
Ça, parce qu'il veut...
Voilà.
On a mis un morceau.
Pardon ?
Tu as été coupé pendant quelques secondes, là. On ne t'entendait plus, les dernières phrases, on n'a pas entendu.
J'ai dit à Maryse de payer la facture. Hein, mais
Non, mais c'est malheureusement le problème technique qu'on peut rencontrer.
Alors, je pense que Dieu veut qu'on discerne sa voix en ce moment. Et il veut qu'on reconsidère nos bases. Oui. Il veut qu'on reconsidère notre vie de prière. Il veut qu'on reconsidère notre manière de méditer la parole de Dieu. Amen. Vous savez, j'étais frappé. Ces derniers temps, j'ai eu des échanges vidéo, des échanges par... on a un groupe WhatsApp, enfin, vous voyez, comme on le fait dans beaucoup d'églises. J'étais frappé par le fait que les chrétiens allaient chercher des liens YouTube, des liens de messages, des liens pour écouter la parole de Dieu. Je n'ai rien contre ces choses-là, hein, que les choses soient claires. Mais je me suis dit, mais ils passent leur temps à rechercher des messages de Dieu qui doivent venir qui viennent d'autres personnes, plutôt que de chercher Dieu lui-même dans la relation avec lui. Et ça, on est dans une médiatisation même de l'évangile aujourd'hui. Et vous et moi, nous sommes, enfin, je peux vous dire, je sais pas si vous êtes choqués par rapport à ce que vous voyez, mais des fois, j'entends des choses qui me font hérisser les cheveux sur la tête, qui sont pas bibliques, qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, et je suis profondément attristé par ça. Donc, c'est le temps de reconsidérer nos bases. C'est notre structure que Dieu attend dans ces temps. Notre posture intérieure pour purifier nos motivations. Il demande qu'on aligne notre cœur avec sa volonté. Et cette action est tellement importante qu'elle va déterminer notre façon d'être à la fin de cette crise. Alors, plutôt que de considérer l'après-crise, considérons le maintenant de cette crise. Moi, je veux faire silence pour écouter le Seigneur, pour lui dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me purifier encore? Et j'ai fait l'expérience cette nuit, pas plus tard que cette nuit, où j'ai fait de l'insomnie, je me suis réveillé à 1h du matin, et j'ai senti le Saint-Esprit me dire, tu vois, tel domaine de ta vie, Bruno, il faut que ça change encore. Tu n'es pas assez purifié, non. C'est quand même dommage que le Seigneur ait à me réveiller la nuit, alors que je fais... alors qu'il pourrait le faire dans ce temps de relation, dans la journée, tout simplement. Alors, faire silence, ici, je vais peut-être vous choquer en vous disant ça, mais tant pis, hein, je me suis dit, ils ne pourront pas me taper. Au pire, ils pourront éteindre leur écran. ce n'est pas forcément accélérer son activité spirituelle. Faire silence, ce n'est pas prier plus. Ce n'est pas intercéder plus. Ce n'est pas jeûner plus. Mais tout simplement, je pense que dans ces temps de silence, c'est reconstruire, si nécessaire, notre relation avec le Seigneur. Alors moi, je sais que pour certains d'entre vous, vous êtes retraités. Moi, je travaille encore, même si j'étais béni ces derniers mois et mon nouveau boulot me donne beaucoup plus de temps. Mais la suractivité est dangereuse. Car elle peut entraîner sur des voies, des terrains contraires à la volonté de Dieu. Il m'a fallu ces derniers temps faire attention de ne pas répondre à tous les appels à la prière. Et j'ai, si je puis dire, est-ce que je peux vous donner un conseil? C'est ne suractivez pas. Suractivez pas votre vie. Jésus l'a bien dit. On dira que je suis ici ou que je suis là. Il a dit ça. Et moi, je vais vous faire une confidence. Mais je crois que c'est un peu l'atmosphère que je rencontre en ce moment. On a des dizaines et des dizaines d'appels à la prière. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y répondre. Je dis ça. Ma priorité aujourd'hui, c'est de faire silence et de reconstruire ma relation avec le Seigneur. Les croyants reçoivent sans cesse des liens avec des enseignements, des prédications, des prières formulées, des rencontres via les réseaux sociaux qui risquent de les envoyer vers des voies sans issue. Jésus n'a rien changé à sa vie de prière. Regardez, il va passer par la crucifixion. Et que fait-il? En Matthieu 22, il est dit qu'il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers pour prier. Jésus n'a rien changé. Il a continué d'être l'homme, le Fils de Dieu qu'il devait être. Alors, je veux simplement vous interpeller, mais je crois que dans les temps qui viennent, faire silence, c'est de rechercher avant tout d'écouter la voix de Dieu pour notre propre vie, pour notre propre famille. Et si vous avez eu des temps difficiles qui ont détruit un peu, si je puis dire, des épreuves qui ont détruit votre relation, l'intensité de votre vie spirituelle, c'est le temps peut-être de le revivre. Et puis, faire silence, enfin, je pense que c'est bâtir des choses inébranlables. Il y a quelque chose d'important que je retiens de cette crise et qui était dans mon cœur depuis longtemps, que je n'arrêtais pas de le dire dans notre église, mais je le disais d'ailleurs à chaque fois que j'allais prêcher ailleurs, je disais ce qui fait la force d'une communauté, ce n'est pas son culte uniquement. Ce n'est pas ses responsables uniquement. Ce n'est pas sa capacité à prophétiser uniquement. Ce n'est pas sa capacité à évangéliser uniquement. Ce n'est pas sa capacité à bien communiquer avec les médias uniquement. Non, ce qui fait la force d'une église, en tout cas je l'ai découvert, c'est la qualité même de chacun de ses membres. C'est la structure interne de chaque personne qui constitue une église.
Amen.
C'est la qualité avec laquelle chaque famille est bâtie.
Amen.
Et je me suis rendu compte, et je dois vous l'avouer, que dans ma propre famille, je me suis rendu compte qu'il y avait des faiblesses. Ce temps de silence doit nous permettre de reconsidérer ce qui, dans notre vie personnelle, dans notre vie de couple, est encore faible. Ce qui est faible dans notre manière d'élever nos enfants, ce qui est faible dans notre manière de faire des disciples dans nos églises, ce qui est faible dans nos priorités. Or, il faut que vous sachiez ici qu'il est écrit en Hébreux, 12, 27, que les choses qui appartiennent au monde qui est créé, notre monde, ces choses-là, qui peuvent être ébranlés. Nous voyons à quel point ce monde est ébranlé. Nous-mêmes, nous sommes ébranlés. Nous ne savons pas ce qui va se passer encore. Peut-être que tout ira bien d'ici un mois et peut-être que ce sera pire. Mais toutes ces choses qui sont ébranlées vont disparaître. C'est ce que dit la Bible. C'est-à-dire peut-être qu'on rentre dans un temps, je ne joue pas à l'Apocalypse, mais peut-être qu'on va rentrer dans un temps d'accélération des crises. Et que toutes ces choses peut-être vont s'ébranler, notre système économique va peut-être s'effondrer, peut-être que même notre manière de voir l'Église aujourd'hui va s'ébranler, peut-être que tout ça va disparaître. Mais il est écrit en Hébreux 12, 27 que les choses qui sont inébranlables vont subsister. Et inébranlable, ici en grec, c'est bien bâti. Et moi, je vous encourage vraiment dans les temps qui viennent à bien bâtir. mes amis, mes frères, mes sœurs, quand tout va chuter, quand l'économie de ce monde va chuter, quand les gouvernements vont chuter, quand les armées vont chuter, et nous voyons combien c'est fragile ici, ce qui va demeurer, c'est l'Église. C'est le peuple de Dieu. Parce qu'elle sera bâtie avec des matières d'un autre domaine. Le monde a bâti des choses, il a construit les choses sur ce qui nous était dit dans la Bible ici, dans Ésaïe 24, ils enfreignent les lois. Ils modifient ce que Dieu avait prévu depuis le départ. Ils violent l'alliance que Dieu avait fait avec l'humanité. Voilà sur quoi notre monde est bâti. Et c'est ce qui va demeurer, c'est qui? C'est ce que ces choses inébranlables qui sont en nous. C'est l'Église, le peuple de Dieu. Alors peut-être qu'on ne verra plus des grandes églises. Peut-être qu'on va être obligé de se réunir en petites réunions. Peu importe, mais ce qu'il y a de plus important, c'est ce que Dieu bâtit dans nos cœurs. C'est ce que Dieu bâtit dans nos vies, avec des matières d'un autre domaine, avec les matériaux de la parole de Dieu. Lorsque nous serons bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, pas à partir des liens YouTube, pas à partir des prédications des autres, mais ce que Dieu aura bâti en nous dans la relation profonde, sincère, merci, d'un père avec ses enfants, merci, et sur la base de sa parole. Alors moi, je vous invite simplement à faire silence. S'il vous plaît, faites taire vos inquiétudes. S'il vous plaît, purifiez-vous. S'il vous plaît, continuez de construire votre relation avec le Seigneur. Et surtout, continuons de bâtir des choses inébranlables. Écoutons le Seigneur, écoutons la voix du ciel et faisons taire la voix de la terre, parce que je pense que c'est là la volonté.